matin, il y a des aspects de la parole de Dieu qui pourraient nous blesser. Ne restons pas sur une blessure. Ce n'est pas une blessure. Le but n'est pas de blesser. Le but, c'est de se dire, mais oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai besoin de progresser. Peut-être que j'ai besoin, dans cet aspect de ma vie spirituelle, de ce bilan de santé spirituelle, me ressaisir. Amen. Donc ne voyez pas au travers de cette méditation le but. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait quelconque arrière-pensée de cela, mais que nous ayons le cœur ouvert pour nous dire, Seigneur, nous voulons véritablement être à la ressemblance de cet homme de Josaphat. Et étant donné que chacun d'entre nous, le but ultime, c'est de ressembler à qui ? À Jésus. Josaphat, on peut lire sa vie dans le chapitre 17 de Chroniques, chapitre 17. Et nous allons lire les versets 3 à 6, qui sera notre premier aspect de sa vie. L'Éternel fut avec Josaphat. Ça commence bien, non ? L'Éternel fut avec Josaphat, et là on a une raison, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit. C'est l'Éternel qui a affermi la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Et écoutez bien le verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen. L'Éternel était avec Josaphat parce que Josaphat marchait dans la bonne voie de Dieu. Dieu n'était pas avec Josaphat parce qu'il était roi. Dieu n'était pas avec Josaphat parce que il y avait un besoin spécifique. Dieu était avec Josaphat parce que Josaphat a appliqué sa vie à marcher dans la bonne voie de Dieu. Que signifie marcher ? Marcher, c'est prendre une direction. En fait, quand l'expression marcher, cela évoque une manière de vivre. Ce n'est pas seulement aller à l'église. Vous ne serez pas béni, l'Éternel ne sera pas avec vous parce que vous prenez le bus pour aller à l'église. Cet aspect-là de la vie n'est pas suffisant. Mais ce que Dieu veut voir, c'est votre manière de vivre au quotidien. Et dans une marche, dans votre manière de faire, Dieu va voir si véritablement vous êtes sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Et il y a là trois points qui nous sont donnés de la vie de Josaphat. Le premier point, il nous est dit que Josaphat marcha, et là, une de ses manières, les trois points que l'on va voir là, c'est il eut recours à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est recourir à Dieu. Que veut dire recourir ? C'est un mot qui, en hébreu, là, signifie chercher, consulter, réclamer. Il faut réaliser que Josaphat, toutes les fois qu'il avait une situation délicate, il avait recours. Toutes les fois qu'il était dans une situation, qu'il s'interrogeait, il avait recours à l'Éternel. Toutes les fois qu'il avait un choix à faire, il avait recours. C'était pour voir si les micros fonctionnaient. Et ça nous parle de l'attitude que nous devons avoir. Mais bien aimé, quel est notre premier recours ? Quel est notre premier appui ? Quel est notre premier raisonnement ? Quel est le premier conseil que nous cherchons ? Dans les moindres détails, notre vie est remplie de choix, n'est-ce pas ? Chaque jour, nous avons des choix à faire. Oh, ben non. Si. Tu choisis à l'heure à laquelle tu te lèves le matin ? À 10h ? Ou à 7h ? Pour regarder la télé ? Ou pour lire la Bible ? Chaque jour, on fait des choix. Comment je vais répondre à mon épouse, à mon enfant? Chaque jour, on fait des choix. Oh, allez, je reste encore un peu plus devant Internet. Ou non, j'apprends à arrêter. C'est cela, une marche, selon le Seigneur. Je n'avais pas seulement aller à l'église. C'est chaque jour, on fait des choix. Et chaque fois que nous avons un choix à faire, recourons-nous au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sachez que Dieu s'intéresse aux moindres détails de nos vies. Chaque fois. Ne croyez pas que le regard de Dieu ne passe qu'un siècle sur deux sur vous. Hop, oh là j'ai du monde à aller voir. Tiens, je vais regarder la vie d'un tel. Ouais, ça va. Bon, allez, hop. Et si à ce moment-là, vous étiez en train de prier, tout va bien. Et si vous étiez en train de faire autre chose, tout va mal. Non. La Bible nous dit que Dieu a sans cesse le regard sur ses enfants. Et il aimerait tellement que nous puissions avoir une relation constante. D'où l'importance de recourir à l'Éternel à chaque fois qu'on peut se poser une question. Qui est votre vrai Dieu? L'argent? Le plaisir? Votre confort personnel? En quoi est-ce que vous mettez votre secours, votre appui? Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Josaphat avait recours à l'Éternel. Et cette manière de toujours se repositionner, de toujours demander au Seigneur, de le solliciter dans ses interrogations, dans ses questionnements, dans ses choix du quotidien, cela faisait partie de la marche avec Dieu. Il est dit dans la suite du verset qu'il suivit les commandements de Dieu. C'est peut-être un béaba, mais obéir à la parole de Dieu fait partie de la marche chrétienne normale. Vous savez, c'est souvent avec le temps que l'on prend des mauvaises habitudes. C'est avec le temps que l'on commence à prendre un peu de distance, à être moins scrupuleux. Au début, oh non, au début de la conversion, on est même un peu trop, quoi. Hein. Mais avec le temps, on est un peu trop lâche. Ah oui, je sais qu'il faut pardonner, ouais. Amen, alléluia. Mais au moment où il faut pardonner, Job a dit une phrase extraordinaire. Job, chapitre 23, verset 12, pour ceux qui prennent des notes. Job 23, 12. Il a dit, je n'ai pas abandonné. Oh, ne cherchez pas. Je vous cite le verset, il vaut mieux que vous soyez concentrés sur le verset. Je n'ai pas abandonné les commandements, mais j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Josaphat a suivi les commandements de Dieu. Job a suivi les commandements de Dieu. Et même quand notre volonté était contraire, je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Pas une journée, pas deux jours. Mais même lorsque ça ne nous est pas avantageux, Seigneur, moi j'ai vraiment envie de faire ça. Mais je sais que ta parole me demande de faire autrement. Alors je fais autrement. C'est cela, marcher avec le Seigneur. Le troisième point spécifique de la marche se trouve au verset 6. Il nous est dit que le cœur de Josaphat grandit dans les voies de l'Éternel. Mes bien-aimés, je crois que toute la vie chrétienne, spirituelle, pourrait se résumer à cette phrase-là. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Mes bien-aimés, Jésus a résumé toute la vie chrétienne à ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous habituons, n'est-ce pas, à entendre ces paroles? Mais ce qui est important, c'est que nous ayons et que nous réalisions et que nous vivions véritablement un cœur qui s'agrandit pour l'œuvre de Dieu. Lorsque les deux disciples d'Emmaüs retournaient tout tristes et que Jésus a pris le temps de leur parler et qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus, ils se sont fait ce constat après coup. Mais lorsqu'ils nous parlaient en chemin, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais c'est ça l'action de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu ne chauffe plus nos cœurs, quand la parole de Dieu ne réchauffe plus notre cœur, quand la parole de Dieu ne saisit plus notre cœur, quand notre cœur est devenu endurci, nous sommes à côté de la vie, tout simplement. Qui accepterait ce matin d'avoir un cœur qui ne bat pas? Qui accepterait ce matin, moi je viens avec un cœur, mais s'il a zéro degré, ça ne me dérange pas. Et vous n'aurez même pas pu le dire. Vous savez que si votre cœur n'est pas chaud, si vous savez que votre cœur ne bat pas, vous êtes mort. Si votre cœur, et c'est l'organe vital du bilan de santé, si votre cœur ne bouillonne plus, alors il y a état d'urgence. Il y a état d'urgence. Ne nous habituons pas à aller à l'église, à lire la Bible, à prier, à avoir nos activités, même très pieuses, peut-être même avoir un service dans l'église. Mais si notre cœur ne brûle plus, si notre cœur ne s'élargit plus, si notre cœur est devenu insensible, si notre cœur n'est plus affectueux à l'égard de mon frère, de ma sœur, si mon cœur n'a plus d'enthousiasme pour la parole de Dieu, si mon cœur n'est plus attaché à l'église, si mon cœur n'a plus de sensibilité à l'état de perdition des âmes, je vous le dis, c'est nous qui sommes en perdition. Le cœur de Josaphat grandissait. C'est Paul qui disait aux Corinthiens, que votre cœur s'élargisse, mes bien-aimés. Que votre cœur s'élargisse. Et il est facile de faire un bilan. Il est facile de savoir si on a encore de l'affection pour les gens, réelle et pas calculée. Il est encore facile de mesurer si on a véritablement envie d'apporter de l'affection, de la douceur à ceux qui nous entourent. Si on a encore des élans d'affection pour venir à l'église. Si on a encore des élans pour lire la parole. Si le temps de la prière, c'est encore un moment de délice, de joie. S'il n'y a plus cela. Ou si ce ne sont plus que des mots. Parce que nous savons ce qui est bon, alors nous le proclamons. Mais que la réalité est différente. Nous sommes là à un point essentiel de notre bilan de santé spirituelle. Il y a un exemple, et ce sera la conclusion de la marche avec Dieu. Il nous est parlé en Genèse chapitre 5 d'un monsieur qui s'appelait Enoch, connu pour plusieurs d'entre nous comme étant l'homme qui marcha avec Dieu. Et cet homme fut enlevé, n'est-ce pas? Je fais juste un rappel pour les habitués de la parole de Dieu, qui nous est aussi parlé prochainement de l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous croyons que nous sommes actuellement, en tout cas nous sommes dans les temps qui ressemblent aux temps décrits dans la Bible comme étant les temps de la fin. Amen. Cela signifie que le retour du Seigneur n'est jamais aussi proche qu'aujourd'hui. Amen. Qui veut être enlevé avec le Seigneur? Pour être enlevé avec le Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur. Et ne nous illusionnons pas, mes bien-aimés. Pour marcher avec le Seigneur, il faut qu'il y ait cet état d'esprit de recourir au Seigneur. Il faut qu'il y ait là cet attachement, cette volonté à obéir à la parole de Dieu plus qu'à nos instincts. Et il faut que notre cœur s'élargisse. Il faut que notre cœur brûle. Il faut que notre cœur soit touché. Il faut qu'il y ait quelque chose de réel. Et pas seulement de superficiel. Le deuxième aspect remarquable de la vie de Josaphat se trouve dans le même chapitre et on va lire les versets 7 à 9. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs. Alors il y a une succession de noms, je vous présente mes excuses si je les lis mal. Benaïl, Abdias, Zacharie, Netanaël, Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramo, Jonathan, Adonija, Tobija, Tob Adonija, Lévite et les sacrificateurs Elishama et Joram. Mais lisons le verset 9. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, et ils parcoururent toutes les villes de Juda. Et ils enseignèrent parmi le peuple. Josaphat a eu à cœur, non pas que les gens viennent à l'église, pour entendre la parole de Dieu. Mais il a dit, je vais envoyer la parole de Dieu dans toutes les villes. Amen. C'est un des rares rois, Josaphat, à avoir fait une telle chose. Il y avait effectivement dans la tradition juive, là, ces fêtes qui rassemblaient tout le peuple à Jérusalem au moins 3 fois dans l'année, où la Torah était lue au peuple. Mais Josaphat a réalisé que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de venir écouter la parole de Dieu 20 minutes le dimanche matin. Il faut que la parole de Dieu soit dans nos maisons. Ouverte et lue. Écoutez et chérie. Recherchez. Et Josaphat, il a délégué des hommes pour que dans tout le territoire, les gens aillent de ville en ville, annoncer, enseigner dans les maisons, dans les foyers, pour que les hommes soient des hommes, qu'ils soient des hommes dans leur foyer, pétris de la parole de Dieu, pour que les femmes soient des femmes, pétris de la parole de Dieu, pour que les enfants entendent la parole de Dieu et sachent construire leur vie sur la parole de Dieu. Et Josaphat, qui était responsable d'une nation, savait que pour avoir une nation forte, pour avoir un peuple fort, pour avoir des familles fortes, il fallait que le peuple, que chaque homme, chaque individu, soit dans la connaissance de la parole de Dieu. Tant de faillites, tant de ruines, parce que la parole de Dieu est délaissée. C'est quand même très surprenant. Et là encore, je ne cherche pas à juger, mais comprenez le constat que je veux faire. Il est quand même surprenant de voir des chrétiens qui ont du mal à se retrouver dans la Bible, avec des livres simples. Parce que ça nous porte forcément à interrogation. Si tu as du mal à trouver tel livre dans la Bible, mais ça veut dire que quand est-ce que tu lis ta Bible, quoi ? Il est surprenant de voir des chrétiens être emportés par des enseignements stériles, à être soudainement là comme hypnotisés par quelques enseignements qui passent par Internet. Et puis quand on les rappelle, mais lis la Bible. Mais non, ils sont tellement happés, captivés, amorcés par des enseignements tordus, bizarres. Mais parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Tant de couples pour être restaurés, guéris. Si chacun prenait le temps de chercher la face de Dieu, il est normal d'avoir des tensions dans la vie de couple, c'est normal, avec nos enfants, à cause du climat, à cause du contexte. Mais si chaque individu, chaque couple, chaque personne se ressaisit, se replace dans la parole de Dieu et se dit « Non, je fais non pas ma volonté, mais la volonté de la parole de Dieu », alors il y aura des guérisons, des restaurations, des réconciliations. Le pardon sera dans nos foyers, le pardon sera dans nos réactions. Parce que nous ne déciderons pas de vivre selon ce que l'on pense de la vie chrétienne. Mais on se conformera à la parole de Dieu. Ne me dites pas qu'une demi-heure de prédication le dimanche vous suffit pour vous enseigner, c'est impossible. La preuve, c'est que dès que vous sortirez de ce lieu, et si quelqu'un vous dit « Alors, qu'est-ce qui a été dit ce matin ?» Alors, attends, tu sais, ah oui, il a une belle cravate, le pasteur. Mais oui, nous sommes comme ça. Nous avons une capacité de ne point retenir les choses. Et c'est même scientifique, il paraît que ce que l'on entend, on n'en retient que, je crois, 3 ou 5% quelques jours après. Donc Dieu le sait. C'est pour ça que nous avons un privilège immense, mes bien-aimés, d'avoir la parole dans nos maisons. Quand on regarde objectivement la France, nous devrions être le peuple le plus réveillé du monde. Des bibles à tous les coins de rue, sur internet, dans toutes les versions, des facilités à aller à l'église, même il y a même des transports pour nous amener le dimanche à l'église, des transports le soir pour aller aux réunions, on devrait être un peuple, mais on travaille 35 heures, oh ! Enfin, pas pour tous, hein. Nous avons le confort, on a l'eau chaude, l'eau froide. Pour la plupart d'entre nous, on ne se pose pas trop de questions de ce qu'on va manger ce midi. On a des beaux habits, hein, vous êtes beaux. Hein. On a tout ce qu'il faut pour que, techniquement, on soit à l'aise. La Bible nous dit que l'on doit prier pour les autorités, pour que nous puissions venir une vie paisible et tranquille. Bah oui, on est paisible et tranquille. Hein. Mais t'as faim de chercher la face de Dieu. Veillons. Veillons. À ne pas négliger la parole de Dieu dans nos maisons. Josaphat n'a pas fait que cela. Le troisième aspect incroyable de sa vie, remarquable de sa vie, on le lit là plutôt au chapitre 19, versets 4 à 7. Josaphat resta à Jérusalem, et puis il fit encore une tournée parmi le peuple. Ça fait référence à ce qu'on a lu tout à l'heure. Il avait fait une tournée pour établir des gens pour enseigner la parole de Dieu. Et là, il refait une tournée dans son territoire. Et là, lisons la suite. Et là, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il ramena le peuple à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et écoutez ce qu'il est écrit là. Il établit, non plus des prédicateurs, mais des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans toutes les villes. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez du jugement, mais c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de personne. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites et des sacrificateurs. Et verset 9, et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville, relative à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables devant l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. Amen. Qu'a fait Josaphat ? Josaphat a voulu que la parole de Dieu soit enseignée dans les foyers, dans chaque ville de son royaume. Et quand il est retourné, il a senti que ce n'était pas suffisant. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a ramené le peuple à l'Éternel. Et là, il a établi quelque chose supplémentaire. Il a dit le fait qu'il y ait l'enseignement de la parole de Dieu, c'est bien. Mais je vois que ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il a remarqué qui manquait ? Des sacrificateurs supplémentaires ? Non. Des enseignants supplémentaires ? Non. Il a établi des juges. Ah bon ? Des juges, vous savez, des gens qui sont là pour trancher entre un différent, entre un frère et une sœur. Si nous négligeons la fidélité, la droiture, l'intégrité dans nos relations, nous négligeons Dieu lui-même. Ne croyons pas que nous pouvons être de bons frères, de bons chrétiens, si dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes remplis de querelles, de contestations, de mépris, de distance. Il n'y a pas de vie agréable à Dieu par une vie de piété unique. Oh, moi, ce qui m'intéresse quand je viens de dire, c'est le Seigneur. Mais tu te trompes, parce que tu fais partie d'un corps. Alors si tu viens au corps et que le petit ongle se dit, oh ben non, moi je viens juste pour venir dans la voiture, hein, le corps m'intéresse pas, hop, il saute du doigt. Ah, mais non, vous allez avoir mal. Et surtout, votre ongle n'a plus de sens. Ne croyez pas qu'en gardant une contestation avec un frère, avec une sœur, qu'avec un problème avec telle ou telle personne dans l'église, en disant, oh, mais je viens pour le Seigneur, vous avez une bonne phase. Non, vous vous trompez vous-même. Parce que vous ne pouvez pas être en harmonie avec le Seigneur si vous n'êtes pas en harmonie les uns avec les autres. Et je ne parle pas qu'avec les chrétiens. Étant donné que le Seigneur nous demande même d'aimer nos ennemis. Encore cette semaine, un frère me disait, mais comment c'est possible ? Cette femme qui va à l'église, je ne suis pas son pasteur, alléluia. Cette femme qui va à l'église tous les dimanches, qui entend la parole depuis des années. Et quand on parle avec elle, elle est dure. Elle ne pardonne pas. Elle critique. C'est de l'aveuglement spirituel. Car comment peut-on aimer Dieu si on n'aime pas celui que l'on voit ? Ne nous voilons pas la face, ni si nous sommes en contestation, si nous sommes en querelle, si nous sommes en bagarre, si nous sommes dans une situation de non-pardon, de refus, de réconciliation, nous sommes sur la voie de la perdition. car nous ne pouvons pas aller au ciel avec un cœur rempli de haine. Je ne vous choque pas ? Si quelqu'un est choqué, je m'en excuse, mais qu'il ne le prenne pas comme un jugement, mais comme un avertissement. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la querelle, c'est un péché. La discorde est un péché. L'animosité est un péché. L'irritation est un péché. Veillons à nos comportements. J'aime le dire à l'église dans ce nid, un vrai chrétien, ça ne se voit pas à l'église, ça se voit dans sa maison. Dans nos manières de parler, de réagir. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait tous les jours, 24 sur 24, les 365 jours de l'année, mais ce que nous avons le devoir de faire, c'est un bilan de santé. De nous examiner nous-mêmes. De dire, mais à quoi sert ma bouche ? Est-elle un sujet de bénédiction ou d'irritation ? Est-elle un sujet de réconciliation ? Ou plutôt une sorte d'huile que l'on jetterait sur un feu déjà dévorant et destructeur. Nous ne pouvons pas, et Josaphat a eu bien raison, d'établir des juges afin qu'il y ait la réconciliation, afin que là où il y a discorde, il y ait restauration. Faites attention et je vous invite à relire chez vous à la maison Ésaïe 58. Ésaïe 58, c'est le chapitre qui définit le jeûne agréable à Dieu. S'il y a bien peut-être un exercice spirituel très, très louable, c'est le jeûne. Oh, il jeûne le frère, oh, ça c'est bien. Enfin, si tu jeûnes, c'est pour toi. Hein. C'est pas pour être applaudi. Mais quand on lit la description du jeûne agréable à Dieu, il n'est aucunement parlé de privation alimentaire comme étant l'exercice essentiel. Mais il va au contraire dire, détache les liens de la méchanceté. Va te réconcilier, règle tes problèmes, réconcilie-toi. C'est à cela le jeûne auquel je prends plaisir. Ne nous faisons aucune illusion. Nous devons d'abord travailler aux relations que nous avons les uns avec les autres, avec nos familles inconverties, avec nos collègues de travail, avec notre patron, avec nos inférieurs, avec nos supérieurs, avec ceux de droite, ceux de gauche, avec ceux à qui on les voit régulièrement, avec le boulanger, avec ceux qui nous voient vivre. Vous savez que Dieu, que les gens jugent Dieu par rapport à notre témoignage. Nous sommes le reflet de Dieu. Et si nous avons une langue qui distille des flèches, l'amertume, alors non seulement nous trompons les gens, nous nous trompons nous-mêmes. Mais nous défigurons le visage de Dieu. Ne nous faisons pas non plus d'illusions. C'est Jésus lui-même en Matthieu 7, et s'il le dit encore en Luc, en Marc, en Jean, il nous dit bien que nous serons chacun jugés à la manière dont nous jugeons les autres. C'est tellement facile d'être dur avec les autres. C'est tellement facile d'être exigeant avec les autres. C'est tellement facile de demander beaucoup des autres. Si tu fais pareil, c'est pas trop mal. Mais sois dur avec toi-même et plus tranquille et cool avec les autres. Encourage l'autre, mais ne le juge pas. Dieu nous jugera tel que nous jugeons les autres. Alors que, comme Josaphat l'a dit à cette équipe qu'il a envoyée, que la crainte de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Amen. Que la crainte de Dieu soit dans nos vies, dans nos relations, dans nos jugements les uns avec les autres. Ne nous jugeons pas. Ne nous critiquons pas. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, alors qu'il lui pardonne. Amen. Nous avons tous des motifs de condamnation qui reposent sur nos épaules, non ? Alors réglons d'abord ces motifs. Et prions pour nos bien-aimés. Et pour ceux qui nous entourent. Amen. Le dernier aspect remarquable de la vie de Josaphat, je vous invite à le découvrir dans le chapitre 20. On va lire ce chapitre petit bout par petit bout. Lisons par exemple les quatre premiers versets. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les fils maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ok ? Donc Josaphat, il est dans son royaume. Et là, il y a trois peuples autour qui disent « Allez, on marche contre ce royaume et on va liquider ce roi. » On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, juste depuis la Syrie, et ils sont à Tamar qui est en En-Gedi. » Verset 3. Dans ça, C'est écrit quoi dans vos Bibles? Dans sa frayeur. Ok? Il a peur, Josaphat. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ok? Il a peur. Josaphat réalise le danger imminent qui est là sur lui-même, sur son territoire. Et Josaphat n'est pas un homme qui est sûr de lui. C'est un homme qui est sûr de Dieu. Amen. Il a peur. Mais oui, humainement, il a raison d'avoir peur. Il panique. Ils sont une multitude. Mais comment on va faire? Chérie, comment on va faire? La première réaction, ça a été d'essuyer ses larmes et de recourir à l'Éternel. Il a fléchi le genou. Il n'a pas fait de sa petite prière comme d'habitude. Non pas que notre petite prière d'habitude n'est pas bonne, elle est essentielle. Mais il a senti qu'il fallait qu'il cherche la face de Dieu. Il a commencé à jeûner. Il a demandé au peuple de jeûner avec lui. Et là, Dieu est fidèle. Et Dieu envoie un prophète pour lui parler. On va lire ce que dit en partie le prophète, en tout cas la conclusion de la parole du prophète. Verset 17. Voilà ce que dit le prophète. Écoutez bien. Il y a une guerre. Il y a des millions de gens à la frontière. Josaphat ne sait pas quoi faire. Et le prophète lui dit, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Attends, on s'arrête là. Vous êtes responsable d'un pays. Vous avez des armées à la frontière. Vous allez voir le pasteur. Frère, j'ai besoin de la prière de l'église. Vous pouvez faire prier, oui, oui. Vous n'avez pas une parole de Dieu pour moi, si. T'inquiète, demain, tu vas à la guerre et tu n'auras rien à faire. C'est tout, pasteur? Oui. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, vas-y. Vous n'aurez même pas rien à faire. Mais demain matin, vous y allez. Et voilà. Vous êtes dans quel état, sincèrement? Vous êtes vachement rassuré? Non! Par contre, si le pasteur avait dit, t'inquiète pas, tu vas y aller, et puis le Seigneur va faire ceci, j'ai une vision, et puis il y aura des chars qui vont intervenir, et puis tu vois, tu seras sur ton cheval, et puis tu vas emporter, tu vas voir, il y aura de la lutte, mais tu vas y arriver, parce que moi, le Seigneur, j'ai prévu que... Ah ça, on aime bien quand il y a des détails, hein? Là, on est rassuré, oh, voilà, là, il sait ce qu'il dit, le gars. Mais là, vas-y, t'inquiète pas, tu n'auras rien à faire. Tu me prends pour qui, là? Comment a réagi Josaphat dans cette histoire? Ben on va juste continuer l'histoire alors. Josaphat, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et dans les fils de Kohen, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous vous rendez compte? Au lieu de dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu nous dis. Tout le peuple a saisi cette parole avec foi. Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Tu as dit qu'on n'aurait rien à faire. Tu as juste dit d'y aller. Ok, Seigneur, et on te bénit! Mais ça, c'est la foi, non? Combien de fois est-ce que nous doutons de la parole de Dieu? Dieu nous a parlé un jour. Alors, on est plein d'allégresse. Oh, le frère, il nous a parlé. Le Seigneur s'est servi de lui. Il a mis une parole de Dieu pour moi. Alléluia! Et puis les jours passent. Et puis on commence à dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'était vraiment de Dieu? Oui, mais ça commence à être long. Oui, mais depuis, Seigneur, parle-moi encore. Et là, il y a d'autres paroles qui viennent. Alors on s'y accroche maintenant. Mais alors que ce n'était pas la parole que Dieu nous avait donnée à la base. Où est notre foi lorsque Dieu nous dit quelque chose, mes bien-aimés? Le peuple, Josaphat. On se sont prosternés, ils ont dit, Seigneur, tu es grand, tu nous as parlé, merci. On ne te demandait pas un chapitre, on te demandait un mot. Dieu nous a donné un mot. Et ils ont commencé à louer, à bénir le Seigneur. Alors ils ont passé une nuit, je ne sais pas si elle était bonne ou mauvaise, mais le verset 20 nous dit que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Ben oui, il y a des choses à faire, ils ne savent pas ce qu'il y a à faire d'ailleurs, étant donné qu'en principe, ils n'ont rien à faire. Mais c'est normal qu'une armée aille de bon matin au combat. Et donc, de grand matin, ils allèrent dans le désert et Josaphat, le chef de l'armée, se présenta et dit « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, renouvelez votre foi dans le Seigneur et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il a discuté avec le peuple, il avait une idée, il a partagé avec le peuple, et c'était quoi son idée ? Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient « Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et voilà que l'armée marche et devant, et il y a la chorale, il y a le groupe de chants, et ils sont commencés à bénir le Seigneur, à le louer, à proclamer sa grandeur. Mais ils sont fous ces gens-là, là. Ils croient que c'est la marche pour Jésus ou quoi ? Mais spirituellement, cela fait toute la différence. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda. Point. Et ils furent battus. Point final. Amen. Et c'est là la grâce de Dieu. Et si vous continuez à lire la suite, il nous est dit que le peuple est rentré chez eux avec plein de joie parce que l'Éternel les avait remplis de joie, mes bien-aimés. La foi précède le miracle, mes bien-aimés. La proclamation de la grandeur de Dieu est une source de bénédiction. Ne nous lamentons pas, mais proclamons la grandeur de Dieu. Appuyons-nous sur sa parole. Renouvelons, affermissons notre foi. Il y a des fois, nous n'avons plus la force de prier, n'est-ce pas ? Il y a des fois, nous sommes fatigués, usés, nous sommes abattus. Entretenons-nous par des chants, par des cantiques spirituels, proclamant la fidélité du Seigneur au travers des chants. Je suis bien certain que dans cette salle, plusieurs ont retrouvé un feu dans leur cœur par quelques cantiques qui se sont élevés. On était abattus, peut-être même à genoux cassés. On avait peut-être même commencé à dire des paroles que nous n'aurions pas dire. Oh, c'est fini. Et le Seigneur a suscité un chant, un cantique. Et cela a redonné du feu dans notre cœur, comme une petite braise, comme une petite allumette. Et là, on s'est rappelé de la bonté du Seigneur. Et on a accepté que le Seigneur souffle sur cette braise. Et le feu est revenu, n'est-ce pas, mes bien-aimés ? Ne nous abattons pas devant les circonstances. Proclamons, chantons. Il y a un mot qui est magnifique dans notre vocabulaire, c'est le mot enthousiasme. C'est ce que c'est l'enthousiasme. Plein de joie, plein d'énergie, plein d'espoir. Enthousiasme, c'est un mot grec qui veut dire entheos, en Dieu. Soyons en Dieu. Marchons avec lui. Serrons sa parole sur notre cœur. Ayons de la justice, de l'intégrité dans nos relations. Lorsque le combat nous paraît trop fort, proclamons la parole de Dieu. Si le Seigneur nous a donné une parole, serrons-la sur notre cœur. Ne doutons pas, ne discutons pas, mais proclamons et chantons la grandeur de notre Dieu. Amen. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu étais le Dieu de Josaphat. Tu étais le Dieu des disciples. Tu es notre Dieu aujourd'hui encore. Père éternel, nous te prions de nous apprendre chaque jour à faire ce bilan, cet état de bilan spirituel. Donne-nous, Seigneur, de toujours veiller à notre santé spirituelle. Nous prenons beaucoup soin de notre corps. Donne-nous de veiller avec autant d'attention sur notre enthousiasme, sur notre joie, sur notre amour, sur notre droiture, sur notre intégrité. Père éternel, nous te bénissons parce que tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais au contraire, tu veux lui redonner la vie. Tu veux qu'il se fortifie. Amen. Tu veux qu'il se relève. Et tu es le Dieu qui a le pouvoir de relever celui qui est abattu. Amen. Te bénis, Seigneur, parce que tes plans sont des plans de bénédiction. Tu nous donnes un avenir et de l'espérance, quels que soient les temps et les circonstances. Amen. Père éternel, merci. Que ce matin, fais-nous grâce. Que nos cœurs brûlent de ta présence, brûlent d'un nouveau pas, brûlent d'une nouvelle énergie. À ton nom soit toute la gloire. Alléluia. Amen.